Derrière chaque jeu se cachent des hommes et des femmes passionnés qui se lancent corps et âme dans des projets tous plus dévorants et chronophages les uns que les autres. Et si à première vue, créer une franchise multimillionnaire comme Uncharted peut sonner comme l'assurance d'une carrière sans problème, eh bien c'est parfois l'inverse qui se produit. Voici donc l'histoire d'Amy Hennig, l'une des créatrices d'Uncharted à qui Uncharted 4 a fait plus de mal que de bien. Celle qui forgera Uncharted et son emblématique Nathan Drake débute sa carrière dans le jeu vidéo il y a fort longtemps. À vrai dire, ses premiers tafs dans l'industrie, Amy Hennig les obtient en tant que freelance et animatrice au tout début des années 90. Elle enchaîne les projets NES, Super NES et même Atari 7800 avec une version du jeu Electrocop qui ne verra finalement jamais le jour, son boulot étant jeté à la poubelle au cours du développement. Un fait marquant qui va incarner sa première déception professionnelle, et vous vous en doutez, ça ne sera pas la dernière. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle du style d'Amy Hennig. Amy est diplômée de littérature anglaise et a même commencé une école de cinéma avant de tout plaquer pour le jeu vidéo. Très tôt, elle s'est rendue compte que c'était sur cet art en devenir qu'elle voulait exceller. Elle, c'est une amoureuse du jeu vidéo, mais avant tout de son pouvoir narratif. Elle attache beaucoup d'importance et d'attention aux personnages, à la mise en scène et aux atmosphères. On pourrait dire qu'elle incarne le courant des narratologues, par opposition aux ludologues, qui misent quant à eux sur les mécaniques de jeu, sur le gameplay et sur les ressorts ludiques d'une œuvre. Après un passage de 2 ans chez Electronic Arts, notamment sur des jeux de commande au processus créatif pas hyper libre, elle s'en va rejoindre une structure beaucoup moins imposante, le studio Crystal Dynamics. C'est la fin des années 90 quand Amy rejoint le studio et à l'époque c'est une petite équipe sur le point de réaliser ses premières prouesses, notamment le chef-d'œuvre qu'Amy considérera plus tard comme sa plus grande fierté, sa plus grande réussite professionnelle devant les jeux de la saga Uncharted. Et oui, rien que ça. Amy est donc embauchée chez Crystal Dynamics et aura dorénavant plusieurs rôles au sein des projets. Sur son premier jeu au studio, elle sera respectivement, tenez-vous bien, Game Director, Producer et Designer principal. Alors pourquoi elle a autant de rôles? C'est simple, durant ses dernières années chez Electronic Arts, elle avait essayé différents postes, passant alors du design à la direction, ce qui lui allait comme un gant. Elle s'est donc rendue compte qu'elle pouvait gérer les deux aspects des jeux en même temps, la création et la production, ce qui est assez rare dans l'industrie. Le côté positif de cette façon de travailler, c'est que chaque jeu qu'elle signe est extrêmement fidèle à sa vision, et le point négatif, c'est qu'elle a une pression de dingue à chaque projet, et que si ça foire, c'est entièrement de sa faute, parce que son nom est littéralement partout dans les crédits. C'est bizarre, ça me rappelle un autre créatif du côté du Japon...
Kojima.
Enfin bref. Du coup, avec toutes ses casquettes, Amy va sortir son premier jeu avec Crystal Dynamics, le mythique Legacy of Kain Soul River, un titre emblématique de l'ère PS1 qui va retourner les joueurs par son ambiance, ses persos et son univers complètement fou. Amy en profite pour se faire un nom dans l'industrie et enchaîne très vite sur une suite, passionnée par son taf et par l'univers qu'elle modélise avec ses équipes. Soul River 2 sort donc en 2001, puis on signe encore un épisode, toujours chez Crystal, avec Legacy of Kain Defiance. Malgré des critiques en baisse, Amy est satisfaite et le répétera des années plus tard, cette licence, c'est ce dont elle est le plus fière dans sa carrière. Elle y a mis tout son cœur, toute son âme et souhaite désormais voir du neuf, aller de l'avant et se mettre de nouveaux challenges professionnels. Ce qui fait que 5 ans après son arrivée au studio, elle fait désormais ses cartons, partant vers de nouveaux horizons. Mais pendant ce temps, à quelques bureaux de là, chez les dirigeants de Crystal Dynamics, on est sur un gros coup. Les boss sont en effet au téléphone avec Square Enix pour récupérer les droits de la licence Tomb Raider et développer les prochains jeux. Et c'est quand même assez drôle de se rappeler de ça parce que Amy, quittant cette boîte à ce moment précis, va justement partir forger le principal concurrent de la franchise Tomb Raider, la saga Uncharted. Pour ce nouveau tournant dans sa vie professionnelle, elle s'installe donc à Los Angeles, la cité des anges, avec son bord de mer mythique, Santa Monica. Là-bas, elle se fait recruter en tant que directeur créatif par Naughty Dog. Loin d'être aussi populaire qu'aujourd'hui, l'entreprise était tout de même une sacrée étoile montante de l'industrie, grâce à Crash Bandicoot et Jak and Daxter.
Wow, how did you do that?
Très vite, elle dirige le jeu Jak 3, un platformer action comme le studio sait si bien les faire. C'est toujours qualitatif, mais il faut bien avouer que chez Naughty Dog, on est alors dans une zone de confort bien délimitée depuis des années. Mais peu après l'arrivée d'Amy, tout ça va changer. Après Jack 3, on la met sur le plus gros projet de la boîte, celui qui incarne la bascule entre la PS2 et la PS3, un jeu plus grand, un jeu plus beau, un jeu plus réaliste, nom de code Big, qui deviendra d'ailleurs Uncharted. Nouvel élan, nouveau modèle, et Naughty Dog souhaite s'inspirer du cinéma pour ce prochain jeu en reproduisant l'intensité d'un film Indiana Jones. En revanche, très vite dans les brainstorming, Amy Hennig et ses équipes vont imposer une dynamique narrative qui inspirera tout le studio et même toute l'industrie de l'époque. Cette dynamique, elle est très simple, arrêtez de faire des persos ultra forts, hyper rodés, sans peur et sans reproche. Amy en a marre de voir dans chaque jeu d'action des quasi-super-héros qu'on va confier aux joueurs en lui disant « Vas-y, amuse-toi à être celui que tu ne pourras jamais devenir ». Pour elle, c'est contre-productif. Et si on veut amener un semblant d'empathie et des émotions au sein d'un jeu d'action-aventure grand public, il faut impérativement des persos auxquels on peut s'identifier, des gens ordinaires à l'aventure extraordinaire, et non des types bodybuildés, surentraînés, qui sont à l'aise que sous une pluie de grenades. Au fil des mois, chez Naughty Dog, Uncharted avance bien, et si lors des premières présentations on qualifiait le jeu de Dude Rider, en référence à Tomb Raider, très vite, un fossé se creuse entre les deux licences. Alors oui, c'est clair que côté gameplay, Uncharted impose une nouvelle dynamique à base de couverture et de visée plus libre, mais c'est surtout sur l'univers, la mise en scène et les personnages que la franchise va se démarquer de son modèle. En 2007, le jeu sort et c'est un joli petit carton, ce qui valide la mise en prod d'une suite sur laquelle planche immédiatement le cercle de créatifs qui entoure Amy Hennig. On y retrouve parmi les plus proches collaborateurs d'Amy, un certain Neil Druckmann et un dénommé Bruce Straley. Gardez bien ces noms en tête, ils seront très importants par la suite. Uncharted revient donc 2 années plus tard avec l'épisode qui va fracasser tous les scores. La suite s'offre un Metacritic à 96%, ce qui fait d'Uncharted 2 l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Amy peut être fière d'elle, d'autant plus qu'elle a dirigé l'équipe de plus de 150 personnes en ayant 2 postes bien distincts. Elle a été Game Director, travaillant alors avec Bruce Straley, et également scénariste, écrivant alors avec Neil Druckmann. Mais derrière le travail bien fait en équipe, les individus cachent quant à eux pas mal de frustrations. C'est notamment le cas de Bruce Straley, un ludologue convaincu qui par nature a une vision très différente du jeu vidéo d'Amy Hennig, qui est elle narratologue. Bruce Straley et Neil Druckmann échangent d'ailleurs beaucoup durant le développement et les deux collègues deviennent amis, au bureau comme sur leur temps libre. Ils partagent énormément de points communs et en ont tous les deux un peu marre de la franchise Uncharted. Après la sortie du 2e opus, ils se disent qu'on ne fera pas mieux sur cette franchise et décident de ne pas participer au développement du 3e épisode. À la place, ils proposent au boss du studio un projet inédit qu'ils développeront tous les deux avec une petite task force. Et c'est une première pour Naughty Dog qui bosse toujours qu'un seul jeu à la fois, mais l'idée proposée plaît tellement aux dirigeants qu'ils donnent leur feu vert pour créer le projet. Cette idée qui va tant leur plaire, vous l'avez probablement vu venir, c'est un certain The Last of Us. Dans l'équation, Amy perd donc Neil et Bruce qui font leur truc dans leur coin pendant qu'elle gère la grosse équipe et produit Uncharted 3, qui met là aussi 2 ans à sortir. Oui, ça ne chôme pas du tout chez Naughty Dog et on le verra des années plus tard, c'est un studio qui a été épinglé pour sa culture du crunch, c'est-à-dire la normalisation des conditions de travail abusives. Uncharted 3 sort donc en 2011 et dès qu'il est sorti, vous connaissez la chanson, l'équipe part directement sur un 4e épisode qui sera aussi le tout premier sur PlayStation 4. Et là, Amy a probablement un sentiment de déjà-vu. Elle était arrivée chez Naughty Dog pour faire très vite le tout premier Uncharted de la PS3 et la voilà quelques années plus tard à bosser sur le tout premier Uncharted de la PS4. Elle propose donc l'impensable, qu'on en finisse avec Nathan Drake. C'est bien simple, son script d'Uncharted 4, c'est celui d'une aventure finale. Une aventure qui va d'ailleurs faire son autocritique. Amy, narratologue confirmée, propose par exemple que l'on ne manipule aucune arme à feu durant la première moitié de l'aventure. Ça semble étonnant quand on pense à Uncharted, mais elle regrette que son personnage, qui paraît si touchant et si émotif durant les cutscenes, trucide en revanche des centaines d'ennemis sans froncer des sourcils une fois les cutscenes terminées. Elle veut que pour son dernier opus, Nathan soit un peu plus humain, une sorte de retour aux sources à l'idéal narratif qu'elle était venue chercher chez Naughty Dog. Mais alors qu'elle travaille depuis plusieurs mois sur Uncharted 4, les ennuis vont la rattraper. On est alors en 2012-2013, 1 an à 2 ans après le début du projet Uncharted 4, et Amy voit peu à peu les effectifs de son équipe fondre à vue d'œil. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ses ex-collaborateurs, Strahley et Druckmann, qui sont partis faire The Last of Us, réquisitionnent de plus en plus de personnes au sein de la team Uncharted 4. Les deux compères sont dans leur sprint final pour livrer leur jeu à temps et sont donc prioritaires par rapport au début de production de l'équipe d'Ami. Les cadres de Naughty Dog diront par la suite que le studio n'arrivait tout simplement pas à recruter suffisamment vite pour subvenir aux besoins de deux équipes, et qu'au mieux, il n'avait qu'une équipe et demie, voire même une équipe un quart. Oui, oui, vous avez bien entendu, une équipe un quart pour terminer The Last of Us et développer le très ambitieux Uncharted 4, qui doit mettre une méga claque à tout le monde parce qu'il sort sur PlayStation 4. Ça paraît délirant, mais c'est la réalité de l'époque, et on comprend donc un peu mieux la suite des événements plutôt dramatiques. Et puis, il faut le rappeler, ces années-là, déjà extrêmement difficiles pour Amy, sont aussi marquées par la sortie en 2013 du reboot de Tomb Raider, très largement inspiré d'Uncharted. Et c'est justement son ancienne équipe, chez Crystal Dynamics, qui a livré cette pépite vidéoludique qui reprend d'ailleurs à la lettre la philosophie d'Amy, perso ordinaire, aventure extraordinaire. Ouais, ça devait vraiment pas être facile du tout comme période, et Amy ne s'est officiellement jamais exprimée sur ce moment-là de sa carrière. Certaines sources parlent d'un accord de non-dénigrement qu'elle aurait signé avec Naughty Dog suite à ce qui va se passer. On est donc en 2014 et le Uncharted 4 d'Amy Hennig passe en code rouge. Il doit sortir l'année suivante et l'avancée du projet est inquiétante. Certains disent que c'est tout à fait normal vu les maigres effectifs attribués et d'autres pointent du doigt Amy Hennig qui ne gérerait pas bien sa barque face à l'abondance de défis. En réunion avec les dirigeants du studio, décision est prise, Amy Hennig doit s'en aller. Comme ça, en plein milieu de la production de ce qui devait être pour elle le dernier opus des aventures de Nathan Drake, elle est dépossédée de son œuvre et doit dire adieu à 10 années de sa vie. Mais vous commencez à la connaître, Amy Hennig est une battante et va se relever de cette période difficile en moins d'un mois. Oui, oui, il ne lui a pas fallu plus de 4 semaines après son départ précipité de Naughty Dog pour intégrer en avril 2014 les studios d'Electronic Arts, son premier employeur qui lui avait donné sa chance 20 ans plus tôt. Là-bas, elle est propulsée au sein de la team Visceral Games et va réaliser son rêve de gosse, bosser sur un jeu Star Wars. Pour rappel, c'est l'époque où Disney et Electronic Arts étaient en plein deal d'exclusivité sur 10 ans autour de la franchise, et l'éditeur doit donc mettre très vite en chantier Star Wars Battlefront pour le côté multijoueur et confie en même temps à Visceral Games la tâche de faire un jeu d'action-aventure solo, dirigé cette fois-ci par Amy Hennig, transfuge et créatrice d'Uncharted. Très franchement, si ça, c'est pas royal comme projet, j'y connais rien. Sauf que si, de prime abord, ça paraît idéal comme configuration, eh bien, dans les faits, Visceral Games n'est pas Naughty Dog. Et si le jeu Star Wars nommé en interne projet Ragtag avance quand même plutôt bien, la situation du studio et d'Ami va devenir de plus en plus difficile à tenir. En effet, à ce moment-là, il faut bien comprendre que Visceral Games est au milieu d'un échiquier stratégique. Le studio fait partie d'une galaxie d'entités qui doivent toutes produire des jeux qui vont dans le sens de l'éditeur Electronic Arts. Et Visceral Games, c'est le dernier bastion du jeu 100% solo, tandis que, de plus en plus, Electronic Arts préfère miser sur du multijoueur, bien plus rentable sur le long terme et moins coûteux à produire. Visceral, c'est donc en quelque sorte le vilain petit canard du groupe, et le fameux jeu Star Wars d'Amy Hennig, c'est la dernière chance de ce studio. Ça, on ne le sait pas encore, mais en interne, Amy et ses équipes commencent vite à s'en douter. Après le succès en 2015 de Star Wars Battlefront, les choses se corsent en interne chez Visceral. Réduction d'effectifs et départs s'enchaînent, des tensions s'installent, tandis que la pression monte de plus en plus. Uncharted 4, qui sort très bientôt, s'annonce comme un excellent jeu, et Electronic Arts ne peut pas se permettre de perdre la face. Avec les finances dont il dispose, avec la licence Star Wars qui lui coûte un bras, l'éventualité de sortir un jeu qui ne soit pas excellentissime paraît impensable. Donc, EA va surveiller de très très près le jeu de Amy Hennig et va demander très régulièrement des démos pour valider la pérennité du projet Ragtag. Sauf que de son côté, Amy est incapable de déployer une production semblable à ce qu'elle dirigeait du temps de Naughty Dog. Certes, elle voit ses pouvoirs renforcés en interne histoire d'avoir les mains libres, mais ce n'est pas toujours bien vu par tout le monde. Son équipe est toute petite, à peine 60 personnes contre, on le rappelle, les 150 personnes qu'elle dirigeait à l'époque d'Uncharted 2. En renfort, EA lui propose le studio canadien Motive massive, une équipe dirigée par Jade Raymond. Amy Hennig est contrainte d'accepter et fait donc passer l'équipe à 140 personnes, ce qui est déjà beaucoup plus viable. Sauf que très vite après, on lui retire cette précieuse aide, car Motive doit faire la campagne solo de Battlefront 2, un jeu multijoueur qui est donc prioritaire par rapport au jeu solo de Visceral Games. Amy Hennig croit alors revivre la production chaotique d'Uncharted 4. En compensation, EA propose le soutien du studio EA Vancouver, mais les équipes de Visceral se sentent vite en danger, persuadées que les équipes de Vancouver sont là pour leur piquer le projet et le remanier à leur sauce. Et ils n'ont pas tort de se montrer aussi suspicieux, vous allez le voir. On l'a dit, EA demande régulièrement des démos du jeu d'Amy Hennig. En 2016, la démo proposée est validée, début 2017, une nouvelle démo est proposée, et là aussi c'est validé, mais EA se montre particulièrement exigeant sur ce coup-ci et demande à voir une autre démo 6 mois plus tard. On rappelle que le jeu est supposé sortir en 2018, donc les équipes d'Amy Hennig doivent avancer leur projet tout en peaufinant des grosses démos dont l'importance est cruciale. Encore une fois, la pression subie doit être extrêmement pesante sur les équipes. On est donc mi-octobre 2017 et la démo est présentée devant les cadres d'Electronic Arts. Mais cette fois-ci, celle-là ne passe pas. C'est un échec. La démo est refusée et immédiatement après ce refus, la décision est prise et annoncée le 17 octobre, Visceral Games ferme ses portes. Pour Amy Hennig, c'en est trop, évidemment. D'autant plus qu'elle dira plus tard en interview que la décision de fermer le studio avait été prise plusieurs mois avant ça et que l'ultimatum et l'évaluation négative de la démo d'octobre n'étaient qu'un prétexte pour fermer la structure et reprendre le lead sur le jeu. Tandis que Projet Ragtag devient officiellement un projet EA Vancouver qui va le remanier façon open world pour mieux coller aux tendances du moment, Amy, qu'on imagine écœurée par la situation, suit son bébé pendant quelques temps avant de quitter définitivement Electronic Arts 4 mois après. Son rêve est brisé et par deux fois elle a été dépossédée d'un immense projet qui lui tenait à cœur. À partir de cet instant, on imagine que la carrière d'Amy ne sera plus jamais liée à des gros triple A de l'industrie qu'elle façonnerait à son image. Elle s'éclipse pendant un temps et se lance en indépendante dans la réalité virtuelle avec la volonté de monter un petit studio de 15 personnes maximum. Il faut croire que cette étape ne la satisfera qu'un temps car on la revoit sur le devant de la scène en 2021 sur deux blockbusters. Comme on dit, chassé de naturel, il revient au galop. Mais Amy semble faire plus attention désormais et se cantonne au rôle de scénariste, ce qui lui plaisait le plus lors de ses différents projets. Le premier jeu, c'est Forspoken de Square Enix où on l'a appris, elle a participé à l'écriture du scénario. Et le second projet, c'est une déduction, puisque rien n'est encore officiel, elle serait co-scénariste d'un mystérieux projet Marvel, supposément dédié aux 4 Fantastiques. Comme quoi, la carrière d'Amy Hennig ne s'est pas arrêtée malgré cette fameuse décennie de calvaire, ce passage à vide, et on lui souhaite évidemment que du bonheur, elle qui incarne l'une des figures les plus emblématiques du jeu vidéo moderne.
Retrouvez d'autres histoires sur JV ou sur YouTube @JVLegends.